Alors, bonjour à tous. Je suis ici avec Étienne Alexandre Beauregard. En fait, je pense que c'est la première fois sur mon poste que je fais une entrevue directement avec quelqu'un. J'ai rencontré Alexandre, ça fait peut-être, je sais pas, 6 mois à peu près. Il y a quelques mois, on s'est rencontrés à un événement. Puis, j'avais été vraiment impressionné par sa pensée puis sa clarté d'esprit. Puis là, il vient de sortir un livre, en fait, dont plusieurs personnes parlent, Anti-civilisation, qui est adressé quand même un peu à un public français, mais qui est clairement pour tous les gens et pour les gens au Québec aussi. Puis Étienne, il représente ce que je dirais comme un nouveau mouvement chez les jeunes, quelque chose qu'on voit aux États-Unis, mais qu'au Québec, c'est un peu nouveau. Pour appeler ça la droite post-libérale. Fait que j'ai pensé que ça serait une bonne idée de parler avec lui puis de regarder qu'est-ce que ça veut dire dans notre contexte, un peu c'est quoi qui l'a motivé. Alors, Étienne, merci de me parler.
Ben, merci à toi pour l'invitation, Jonathan.
Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, peut-être tu peux raconter un peu ton... Parce que tu es très jeune, en fait, puis c'est ça qui est fascinant. Peut-être tu peux raconter un peu ton parcours, tu sais, comment tu en es arrivé à écrire ce livre-là. C'est quoi qui t'a... Un jeune au Québec comme ça...
Ouais, ben écoute, moi, donc j'ai 24 ans, je pense que je me qualifie encore comme jeune. Un jour, peut-être qu'on arrêtera de parler de mon âge. Je viens de la région de Québec. Grosso modo, depuis que j'ai 15-16 ans, je suis très intéressé par la politique, par la vie des idées, puis donc parcours militant, tu sais, qui m'a mené notamment dans les 3 dernières années à être rédacteur des discours du premier ministre François Legault. Publié aussi 2 livres entre-temps, là, Le schisme identitaire et Le retour des Bleus, qui étaient sur la question nationale au Québec, sur l'interface un peu entre le nationalisme et le conservatisme au Québec. Et depuis le mois d'août, j'ai quitté donc pour devenir chercheur à l'Institut Cardus, qui est un think tank basé à Ottawa. Donc, on fait des études sur les politiques publiques à partir de la tradition sociale chrétienne. D'ailleurs, c'est de ces bureaux-là que je te parle en ce moment. Et donc, Anti-civilisation, c'est mon 3e livre. Qui est paru effectivement en France d'abord au mois de septembre, à la fin octobre au Québec. Et puis l'idée derrière le livre vraiment, c'était de regarder qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on pourrait appeler un peu la crise de la cohésion sociale en Occident. Parce que je pense que c'est une question qui est universelle, en fait, dont on peut parler en France comme on peut parler au Québec. On a l'impression que les fondements de nos sociétés, ce qui nous lie ensemble comme citoyens, sont un peu fragilisés. On a l'impression justement que ce lien social-là, c'est énorme, cette base de culture, de tradition qui nous donne des repères, en fait, qui nous donne un peu dans quelle société on s'inscrit, comment est-ce qu'on agit. Tout ça, c'est comme si c'était un peu fragilisé. Puis je pense qu'il y a une grande insécurité en ce moment. Je pense que c'est ressenti encore plus fortement chez les jeunes, puis que ça explique en partie un autre phénomène dont on parle beaucoup depuis l'an passé, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les jeunes de la génération Z, comme moi, qui sont nés entre 1995 et 2012, pourquoi est-ce qu'ils virent certains disent vers la droite, plus vers une forme de conservatisme. Et bon, ça casse un peu avec l'image qu'on a de la jeunesse aussi. Et c'est un peu le pari que j'ai fait de plonger un peu dans ce malaise-là pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe politiquement en ce moment.
Puis, une des choses aussi qu'il y a eu, qui est une grosse transformation pour toi, parce que le think tank pour qui tu travailles, c'est ça, c'est un think tank chrétien. Tu as aussi une conversion, tu es retourné à l'Église. Est-ce que toi, tu as été baptisé comme enfant? Est-ce que tu es né, grandi dans une famille plus sécularisée? C'était quoi ton parcours religieux, disons?
Ouais, du tout. Moi, j'ai pas été baptisé comme enfant. C'est nouveau. Puis je pense que ça aussi, c'est une tendance qu'on voit chez les jeunes. T'sais, l'idée que, ben encore une fois, est-ce que on peut, à titre personnel, faire abstraction des questions transcendantes, des questions sur le sens de l'existence, sur le monde dans lequel on vit, parce que ça y touche directement. T'sais, est-ce qu'on peut être des pages blanches sur ce niveau-là, ou est-ce que justement on a besoin de se rattacher davantage à une forme de sagesse qui nous précède, puis qui nous explique en fait beaucoup sur le monde? Fait que moi, c'est une démarche personnelle à ce niveau-là, mais je pense que je suis pas le seul non plus. Là. J'en connais plusieurs qui ont fait le même parcours aussi.
Oui, ça, nous, on le voit. En tout cas, c'est sûr qu'au Québec, les choses sont toujours un peu plus lentes à se passer. Tu sais, dans ma paroisse, on a vu quand même une grosse vague de jeunes, surtout des jeunes hommes dans la vingtaine. Aux États-Unis, c'est vraiment un immense mouvement. Là, dans les églises plus traditionnelles, l'église catholique, les églises orthodoxes, il y a vraiment il y a une marée. Là. Je connais des paroisses où il y a plus de catéchumènes que de membres des paroisses. Au Québec, c'est un peu plus lent, mais les Québécois, on a, ou t'es pas moi personnellement, mais les Québécois, ils ont une sorte de réactivité face à l'Église catholique. C'est un peu, moi je dis toujours que c'est le dernier autre. T'sais, on a comme, c'est la dernière altérité. Là. On a comme l'idée que l'Église, c'était une sorte de bête à l'extérieur de nous qui nous... qui nous ont tellement réprimés dans le passé qu'il fallait rejeter à tout prix rejeter à tout prix l'autorité qu'elle avait sur nous. Puis comment tu vois ça dans la génération, dans ta génération, comment les gens perçoivent cette espèce d'élan-là que les boomers puis les gens après eux ont eu? Là?
Bien, tu sais, je pense qu'on rendrait service à personne si on niait qu'il y en a eu des abus. Tu sais, je veux dire, cette relation-là, elle ne vient pas de nulle part, puis je pense qu'il faut la comprendre, puis que c'est normal aussi que la génération qui a été exposée, à des formes qui étaient peut-être plus abusives de christianisme, ont une réaction qui est très épidermique. Mais maintenant, est-ce que ça représente l'ensemble de l'Église sur 2000 ans d'histoire, sur l'ensemble du monde? Je pense que non. Puis surtout, je pense que la raison pour laquelle, par exemple, ma génération a un rapport différent avec ces choses-là, c'est que, veux pas, comme je disais, en l'absence de christianisme, c'est pas vrai qu'on vit dans une page blanche, t'sais. Puis ce qu'on voit au contraire, c'est qu'il y a un autre, puis j'en parle beaucoup d'anticivilisation, mais une autre forme d'ordre moral, entre guillemets, t'sais, c'est-à-dire qu'on peut pas chasser la moralité, on peut pas chasser les valeurs, puis penser que si c'est plus le christianisme, par exemple, qui ordonne la société ou qui ordonne notre vision du monde, ça va être une espèce de terrain neutre où il n'y a rien du tout. T'sais. Puis à l'inverse, je pense qu'il y a beaucoup de dérives contemporaines, par exemple de l'individualisme, dont je suis extrêmement critique dans le livre, mais c'est un peu la morale de substitution qu'on a adoptée qui n'était pas forcément préférable à ce qu'on a laissé derrière d'une certaine manière. T'sais. C'est sûr qu'on souhaiterait peut-être un équilibre, évidemment, entre l'individu et entre la communauté, mais aujourd'hui, quand on voit certaines visions qui, du moins ce qu'on nous apprend à l'école, en tout cas, moi, c'est un peu contre ça que je critique, tu sais, cette idée que tu peux être tout ce que tu veux, deviens ce que tu es, tu sais, qui est au final une espèce d'anti-morale, absence de, qu'il y aurait cette idée-là, hein, Robert Bella appelait ça l'individualisme expressif, comme quoi on aurait tous en dedans de nous une espèce d'entité authentique, mon moi que je dois découvrir et exprimer, mais je pense que c'est une vision un peu naïve de la nature humaine de penser ça, qu'on peut fonder sa morale sur soi-même comme si on n'était pas nous-mêmes en proie à certaines influences qui nous façonnent et tout. Puis moi, je suis pas critique de ça, mais je pense qu'au contraire, quand on conçoit l'individu pour en avoir une vision qui est juste, il faut justement voir que l'être humain, c'est d'abord la somme des appartenances, la somme des ancrages qu'il fonde, que ce soit l'appartenance à une famille, à une communauté, à une nation, puis que si on veut vraiment comprendre c'est quoi l'être humain, comprendre comment on peut s'accomplir personnellement, il faut justement voir qu'on est d'abord des êtres enracinés plutôt que des espèces d'atomes qui se définissent par eux-mêmes, alors que dans les faits, ça n'arrive jamais de se définir par soi-même.
Oui, c'est ça. C'est assez intéressant parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a comme eu une sorte de radicalisation de la pensée des révolutions, c'est-à-dire c'était même plus seulement des révolutions politiques, mais c'était une révolution qui est devenue à tous les niveaux de l'être humain. Là. Puis donc, l'affranchissement de l'individu, mais un peu vaguement défini, là, de toutes les sortes de restrictions, puis la famille devient une image du fascisme, l'Église devient une image du fascisme. En fait, toutes les formes de structures sociales, même la nation, finalement, devient une image de fascisme, puis de toutes les structures possibles deviennent. Puis le plus fascinant, c'est comment dans la culture LGBTQ et plus, même la personne, en fait, devient une image de tyrannie. C'est-à-dire qu'on a comme des sous-désirs ou des sous-identités qui remontent, qui prennent le dessus d'une sorte d'être humain stable. Puis on parle de fluidité, on utilise des termes vraiment de déconstruction, le même au niveau de la personne. Puis c'est assez fascinant de voir qu'on est arrivé comme à bout de ça, là, peut-être en 2020, là, l'espèce d'apogée de ce mouvement-là. Puis tout le problème de santé mentale que ça l'amène, là, t'es pas, toute cette espèce d'idée d'atomisation de l'être humain, ça amène à l'anxiété puis à la dépression. Fait que c'est pas surprenant que des jeunes comme toi arrivent à voir à travers ça ou essayer de s'attacher, disons, à quelque chose qui est plus ancré là, aujourd'hui.
Ouais. Des fois, je me demande si c'est pas, en quelque sorte, le refermement d'une parenthèse qui a commencé dans les années 60.
Ouais.
Puis, on parlait des révolutions tout à l'heure, je trouve ça super intéressant parce que je commence le livre avec ça, ouais. De dire qu'il y a certainement un ressort qui s'est cassé au milieu du 20e parce que la vision, justement, hostile aux institutions qui encadrent l'être humain, c'est... Bon, je sais qu'il y en a beaucoup dans le camp conservateur qui aiment ça condamner, le modernisme au complet, puis de dire qu'en fait, ça a commencé à décliner à partir de la Révolution française ou pire encore avant. T'sais, en tout cas, bref. Mais moi, je suis pas trop là-dedans. Là. Je pense que...
C'est
Tu vois, c'est comme une question d'ambition. Hein? Jusqu'où tu peux pousser comme le début de la décadence? Mais bon, moi, c'est pas, c'est pas ma tasse de thé. Mais tout ça pour dire que quand on regarde, par exemple, dans l'idée des révolutions contre juste la monarchie absolutiste, etc., il y a quand même l'idée que le peuple, comme entité collective, la nation, a le droit de s'autodéterminer, puis que c'est une entité qui est porteuse de sens. D'ailleurs, je pense pour ça que le républicanisme français, tout moderniste soit-il, conserve justement certaines racines de ça, puis est encore un des derniers systèmes idéologiques qui permet la coercition. Puis moi, je pense que la coercition, c'est pas un mauvais mot quand je le dis, ça dépend pourquoi on le fait, mais aujourd'hui, foncièrement, quand tu dis cette espèce de débordement-là du mot fasciste, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on interdit quelque chose à quelqu'un, c'est comme s'il y avait un malaise, puis que, hey, est-ce qu'on peut encore faire ça et tout? Puis c'est vraiment ça, à mon sens, qui est vraiment la version la plus désaxée du libéralisme, c'est-à-dire de parce qu'on ne conçoit plus que la liberté doit se produire dans un cadre moral, culturel, civilisationnel. C'est comme si le seul fait de dire, ouais, mais attention, est-ce que cet usage-là de la liberté est pour faire le bien ou pour faire le mal? Est-ce que ça se peut que tu te fasses du mal à toi-même? Par exemple, l'exemple de la drogue, c'est le meilleur. Tu sais, je veux dire, tu ne fais pas mal à quelqu'un d'autre quand tu deviens un accro à une drogue dure, mais tu te fais mal à toi-même. Puis là, le système libéral très individualiste est un peu en crise face à ça, tu sais. De dire, ah ben là, est-ce que se faire du mal à soi-même, c'est violer sa propre liberté ou est-ce qu'au contraire, on devrait le laisser libre? Fait que j'ai l'impression que quand on en fait notre unique principe pour penser le politique, ben on arrive rapidement à vide. Puis je pense qu'aujourd'hui, justement, quand on est face aux échecs de l'application concrète de ce principe-là, ça explique pourquoi, je pense, beaucoup de jeunes regardent ça et disent, ben OK, ça se peut que ça nous prenne plus que la liberté individuelle pour fonder un ordre qui vive le bien commun puis dans lequel on peut tous s'épanouir parce que on a grandi, en fait, avec les échecs de cette liberté-là.
Oui, c'est ça. Mais ce qui est fascinant pour moi dans l'espèce d'ordre révolutionnaire ou l'espèce d'ordre libéral qui se radicalise, c'est que on dirait que plus qu'on va vers la liberté absolue, là, plus qu'on descend, plus qu'on essaie de s'affranchir de toutes les choses, plus qu'on a en fait besoin de structures pour compenser le manque de structures intermédiaires. C'est-à-dire, plus au début, on attaque la famille, l'Église, les communautés et tout, puis l'État devient de plus en plus puissant. Tu sais, on voit l'État moderne devenir de plus en plus puissant. Puis à un moment donné, on commence à voir l'État comme une sorte d'obstacle à notre affranchissement absolu. Puis là, on fait appel à des structures qui sont transnationales. Tu sais. On fait appel à des sortes de normes internationales ou à des ordres internationaux. Puis on a vu ça, tu sais, pendant la COVID, on a vu vraiment tu sais, jusqu'où ça peut aller, là, d'espèces d'appel à des formes internationales tu sais, qui sont bureaucratiques, qui sont comme au-dessus là, des gens qu'on a élus pour un peu... on pourrait dire, légiférer entre les individus atomisés, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est fascinant, je trouve, avec la vision d'une sorte de tu sais, le libertarien absolu, là, tu sais, ou l'espèce de liberté absolue, c'est que toujours simultanément, il y a des structures de plus en plus autoritaires qui s'installent par-dessus. On peut pas l'éviter parce qu'on a besoin de remplir ces responsabilités-là, tu sais, avec des... Avant, si c'était la communauté ou la famille ou l'Église ou les différentes institutions qui le faisaient, là, si on enlève ça, ben on n'a pas le choix de les faire. Tu sais, on a besoin des gens qui s'occupent des routes, on a besoin des gens qui s'occupent des lois. Puis ça, on dirait que ça devient de plus en plus, tu sais, avec tu sais, l'Union européenne, c'est comme un exemple vraiment aberrant de ça, là, où tout d'un coup, c'est comme une sorte de structure qui s'installe au-dessus de tout, puis commence à légiférer, puis à contrôler. Mais toi, disons, dans ta vision, tu sais, c'est à quel niveau que tu vois la possibilité de cohésion? Tu sais, c'est à quel niveau que tu vois la meilleure place pour exister là, en tant qu'unité. C'est parce qu'on a l'idée de la nation au niveau de la modernité. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui est encore qu'on peut encore sauver?
Oui, moi, je suis fondamentalement un nationaliste. Tu sais, c'est écrit en arrière de mon livre, là, nationaliste conservateur québécois. C'est une étiquette que j'assume complètement. Mais cela dit, je pense que la critique que tu viens de formuler au niveau de notre relation à l'État, elle est très valide. Puis je pense que honnêtement, comme Québécois en Amérique du Nord, juste on le comprend que la nation, c'est plus que l'État, dans la mesure où c'est une manière de se comprendre, une manière de vivre ensemble, c'est des référents qui sont très antérieur à la structure étatique. T'sais. Au final, c'est là-dessus que l'ordre politique formel se fonde, mais c'est pas l'inverse. C'est pas l'État qui a créé le peuple québécois. Il existait bien avant. Il existait bien avant la Révolution tranquille aussi, quoique certains le contestent désormais. Mais non, c'est une relation qui est plus complexe qu'on le pense. Tu critiquais à juste titre les libéraux pour leur relation à l'État, parce que moi, je pense que foncièrement, les libertariens ont une mauvaise conception de l'ordre politique quand ils voient seulement d'un côté l'individu, de l'autre côté l'État. D'une certaine manière, c'est un peu la lutte des individus contre l'État. Puis on pourrait dire qu'à l'inverse, beaucoup de socialistes voient au contraire l'État comme l'unique planche de salut des individus, mais c'est comme si les deux systèmes de pensée oublient complètement toute cette section intermédiaire qui existe entre les deux. Puis moi, évidemment, je crois dans la nation parce que j'en fais partie, puis je pense qu'en Amérique du Nord, c'est un peu un privilège anglo de penser que la nation n'existe pas. C'est-à-dire que c'est sûr que si tu es 100% hégémonique, bien, tu peux te dire qu'au final, c'est pas tant important, mais parce qu'elle est tellement là puis omniprésente que tu peux te permettre de l'oublier. Mais quand tu es un Québécois, tu peux pas oublier la question culturelle, tu peux pas oublier la question nationale. Cela dit, ça veut pas dire non plus que c'est une licence pour que l'État-nation, en laquelle je crois, aplatisse complètement toutes les autres institutions de la société. D'ailleurs, c'est une des parties du travail que j'aime le plus chez Cardus, de penser justement à ce qu'on appelle, nous, l'architecture sociale, mais de dire justement comment est-ce que chaque institution, chaque sphère de l'existence a son rôle. Tu sais, de dire le rôle de l'État, c'est pas le rôle de la famille, qui est pas le rôle de l'école, qui est pas le rôle des syndicats, qui est pas le rôle des églises, qui est pas le rôle des associations bénévoles. Puis une société qui est épanouie, oui, une société qui est saine, c'est une société où toutes ces institutions-là que je viens de nommer ont leur sphère d'influence qui est la leur, qui ne déborde pas dans celle des autres, mais qui sont capables, tout à leur manière, de nous apporter une existence qui est pleine, qui est remplie. D'ailleurs, je pense que, d'une certaine manière, une des raisons profondes de la crise qu'on vit en ce moment chez les jeunes, c'est parce que ces structures-là intermédiaires sont tellement affaiblies. Tu sais, c'est vraiment facile de blâmer ces affaires-là pour tout ça. Ça contribue. Mais est-ce que c'est la seule chose? Non. Tu sais, tu as sûrement lu ou au moins entendu parler de Bowling Alone de Robert Putnam, qui, moi, est pratiquement un livre de chevet. Là. J'adore ce livre-là parce que ça raconte tellement quelque chose de fondamental sur la perte de la vie communautaire. Il parle des États-Unis entre environ 1950 et 2000, mais ça existe partout dans le monde occidental. De dire comment les associations bénévoles. Lui, il parle, par exemple, des clubs de bowling, mais on pourrait dire les cercles des fermières, on pourrait dire, on imagine très bien qu'on parle les clubs optimistes, tout ça dans lequel les gens trouvaient du sens dans leur vie, qui faisaient un peu comme des activités parascolaires, entre guillemets, là, en langage de jeunes, après leur travail, qu'au lieu, justement, de s'évacher devant TV pendant 4 heures avant d'aller se coucher, ils sortaient pour aller jouer aux quilles avec la gang du quartier, pour aller faire du tricot, qu'en sais-je, que ça apportait une dimension supplémentaire à l'existence. Puis je regarde, moi, des statistiques qui me font glacer le poil sur le dos, là. Bon, c'est pas une expression, mais tu comprends. C'est de dire que, par exemple, chez les jeunes de la génération Z, aux États-Unis, mais je sais intimement que c'est la même chose ici, on a de moins en moins d'amis proches que les générations précédentes. On a moins de relations amoureuses. Quand on a des amis, on les voit moins. Puis tout ça, c'est un appauvrissement qui est comme mesurable du lien social. Puis ça me fait vraiment peur. Parce que, effectivement, quand tu dis à ce moment-là, quand on n'a plus ces liens-là, ce lien social, mais ça vient aussi avec une part de civilisation. T'sais, mon livre porte sur la civilisation, sur la capacité à rejoindre des normes qui nous dépassent et qui nous permettent de vivre ensemble. Mais si on ne vit plus ensemble, bien, c'est dur d'intégrer ces normes-là. Puis quand on se désocialise d'une certaine manière, bien, les comportements antisociaux, entre guillemets, se multiplient de manière tout à fait naturelle. Puis à ce moment-là, effectivement, quand le droit mou que sont les normes ne suffit plus, bien, c'est le droit dur, puis c'est effectivement une plus grosse autorité au niveau de l'État. Puis je ne pense pas que c'est ça qu'on souhaite. T'sais, évidemment, on souhaiterait vivre dans une société où les relations sont assez pacifiées, qu'on n'a pas besoin d'avoir un policier à chaque coin de rue. Puis moi, je sais très bien de quoi je parle. Je travaille au coin de la rue Rideau où il y a le plus comme d'itinérance à Ottawa. Là, on le voit toujours. Je regarde par ma fenêtre. Puis je vois constamment la police qui arrive parce qu'il y a des combats dans le coin de la rue. C'est, je pense pas que c'est dans ce monde-là qu'on veut vivre.
Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment fascinant parce que c'est vrai que si on regarde la doctrine sociale de l'Église catholique, t'sais, moi, je suis même pas catholique, mais je le vois qu'ils ont vraiment vu le problème de loin. T'sais, au début du fin 19e, début 20e, ils voyaient que le problème qu'on allait faire face, puis t'sais, tout le concept de subsidiarité, c'est en fait la solution au problème. On dirait que l'État moderne, mais c'est pas juste l'État, c'est comme c'est une structure moderne de comprendre que les autorités sont là pour nous protéger des institutions intermédiaires. Tu sais, l'idée, on a vraiment l'idée que le gouvernement est là pour protéger les enfants des parents, de protéger les enfants des églises, protéger les enfants de toutes les structures, des scouts, des... Tu sais, parce qu'on voit qu'il y a des abus. C'est sûr qu'il y a des abus dans toutes ces structures-là. Mais quand on a l'idée que l'État est là systématiquement pour séparer, tu sais, les enfants de toutes ces relations intermédiaires-là à cause qu'il y a de temps en temps de l'abus, bien, on crée un gros problème. Tu sais, on crée l'atomisation dont tu parles, tu sais, qui est aussi, c'est sûr que la technologie et toutes ces autres choses-là, il accélère le processus. Mais c'est assez fascinant. Mais ce qui est difficile pour moi, c'est que quand je regarde autour de moi, si je vis en banlieue, disons la banlieue de Montréal, je vois pas de solution facile à cette chose-là. Tu sais, l'idée de relations volontaires entre les gens. Tu sais, nous, par exemple, on a fait l'école à la maison. C'était une façon aussi de créer des communautés volontaires. Tu sais, je vais à l'église, c'est toutes des communautés volontaires. Mais c'est vraiment aller contre-courant là, de participer dans ces choses-là. On est vraiment des bénéficiaires de l'État puis des individus. C'est comme ça qu'on pense. Tu sais, toi, dans ta génération, est-ce que tu vois un mouvement, tu sais, vers des relations volontaires? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des jeunes qui prennent ça au sérieux puis qui veulent participer, tu sais, au tissu social à ces niveaux-là?
Bien, d'abord, je pense que, comment dire, on arrive à un moment où on voit les institutions par autre chose que par leurs abus aussi. Parce que, tu sais, je pense que quand tu vis de manière aiguë ce manque de lien social-là, je pense pas que c'est une réponse satisfaisante de dire, par exemple, « Ah ouais, non, mais tu sais, l'Église catholique, c'est seulement des abus sexuels. » Non, mais tu sais, à un moment donné, ça va, là. Dans le sens que... puis, de la même manière, l'État, c'est pas seulement l'autoritarisme. Puis, la famille, c'est pas seulement l'inceste, là. Tu sais, je veux dire, franchement, si on juge une institution de par uniquement ses abus... La conséquence logique de ça, c'est comme l'éternel retrait puis le vide, tu sais. Puis je pense que on est en ce moment très malade du vide, puis on peut pas seulement carburer à ça. Puis tu sais, c'est drôle parce que on en parle, j'ai lu dans le dernier essai de Judith Butler, tu vois comment je lis toutes sortes de choses qui ne sont pas naturelles, une phrase qui m'a fait vraiment réfléchir sur le sens de la société aujourd'hui, parce que elle critiquait, tu sais, comme la coupe dans les services publics, etc. Ce qui est, à mon sens, déjà un narratif très critiquable quand tu vois que la part d'investissement étatique dans le PIB n'arrête pas de monter, particulièrement au Québec. Mais tout ça pour dire, elle dit, on est rendu à un point où les familles doivent suppléer au rôle de l'État.
Okay. Et...
Ben, c'est incroyable. Ça. Tu vois, nous autres, ça nous fait grincer des dents. Puis là, je me suis dit, OK, là, on a comme inversé la primauté, là, tu sais. De dire, puis moi, d'ailleurs, c'est comme une proposition que je vais toujours critiquer, puis je me fais beaucoup critiquer sur les réseaux sociaux quand je vois contre ça. Mais moi, toute l'idée, par exemple, que le gouvernement devrait faire un programme universel de lunch dans les écoles, personnellement, ça me rend fou parce que c'est comme, t'sais, moi, je suis pas libertarien, là, genre, je trippe pas sur Hayek, mais si tu me dis, genre, décris-moi la route de la servitude en 2025, ça va vraiment ressembler à ça. Tu sais, de dire que la responsabilité de base d'un parent, qui est quand même de nourrir son enfant, et on espère aussi de se nourrir soi-même, plus personne n'est capable d'assumer ça, de telle sorte qu'il faut que, de manière universelle, ça soit le gouvernement qui le fasse. Tu sais, moi, je suis pas contre que le club des petits-déjeuners existe. Au contraire, je suis très content. Et plus encore, je pense que ça en dit long que ce soit un organisme communautaire qui n'est pas étatique, qui le prenne en charge en ce moment. Et c'est très bien. Mais pour certains, justement, ceux qui ont la mentalité de Butler que je viens de te décrire, regardent ça puis disent... C'est indigne que ça soit pas l'État qui le fasse. C'est le gouvernement qui a failli quand il y a une institution qui a accompli une initiative. Tu sais, c'est comme quand on voit, par exemple, dans le Journal de Montréal, une école que les murs ont pas été peints depuis des années, que finalement, les parents sont arrivés une fin de semaine qui ont repeint ça, que les gens se scandalisent en disant « ça a donc bien pas de bon sens que ce soit les parents qui le fassent ». Mais au contraire, tu sais, c'est-à-dire que moi, j'aime la mentalité, puis on pourrait en débattre longuement, là, puis c'est pas mes questions de choix, mais je pense qu'il y a un peu de ça dans la différence catholique-protestant-culturelle, tu sais, puis je constate quand même que mes amis qui sont plus proches de la tradition protestante ont ce côté-là très volontariste de dire « OK, bien, regarde, s'il y a un problème, moi, je vais le régler. » Tandis que, bien, peut-être que la structure un peu hiérarchique héritée du catholicisme est encore restée un peu dans le cerveau québécois de telle sorte que ça explique peut-être notre relation à l'État. T'sais. Puis, ayant travaillé pour le premier ministre du Québec, je peux te dire que des fois, je regardais la revue de presse le matin, puis si, par exemple, là, je me souviens, ça, c'est un courriel, là, une prof qui avait crié après un élève, genre dans le fin fond des Laurentides. Puis là, les gens arrivent, là, ils vont voir le ministre de l'Éducation. Ils disent là, monsieur, qu'est-ce que vous avez? C'est quoi votre opinion là-dessus? Pourquoi vous n'avez pas empêché ça? Puis là, tu te mets 2 secondes dans les plats du ministre. Voyons donc, ça se peut pas qu'on le tienne responsable de quelque chose comme ça. On pourrait dire la même chose dans le réseau de la santé, tu sais. Dans le sens que c'est un peu un mythe de croire que si on centralise ça au niveau de l'État, la responsabilité va être bien exercée parce qu'à un moment donné, on est tous des humains. Puis si on gère ça d'en haut, on ne peut pas avoir un contact terrain. Fait que je pense qu'il vient un temps où peut-être le réengagement va juste venir du constat lucide que il y a certaines sphères qui ont exercé un rôle qui est trop gros par rapport à leur capacité réelle. T'sais.
Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr qu'en tant que Québécois, je trouve que la route est assez sombre là, parce que tu sais, on a vu dans les dernières années le changement de la loi sur la priorité parentale. C'est des choses comme ça. Ça donne l'impression que le peuple québécois est totalement en ligne avec l'étatisation là, des structures. C'est sûr que des fois, là, tu sais, comment je pourrais dire, tu sais, la nuit est la plus noire avant le lever du soleil, là, tu sais, avant l'aube. Là. Fait que ça se peut que c'est comme une sorte d'accélération pour qu'on voit que c'est pas possible de vivre de cette façon-là. C'est ça l'espoir. Ou bien qu'il y ait des mouvements des plus volontaristes à l'intérieur du système qui vont finalement primer, là, parce que ça honnêtement, ça crée des meilleures personnes. T'sais, c'est-à-dire des parents engagés avec leurs enfants, ça crée des meilleures personnes que des parents désengagés puis une école engagée. Ça, 100% tout le monde. Je pense que quand je le dis, j'espère que la majorité des gens peuvent croire que c'est vrai. Puis la même chose pour les différents aspects communautaires.
Puis tu sais, je pense que peut-être un des obstacles à cette prise de conscience-là, c'est que malheureusement, on parle trop de l'État et du gouvernement comme quelque chose d'unifié. T'sais, moi, par exemple, je suis très favorable à l'intervention de l'État pour protéger la culture québécoise. C'est quand je dis que je suis un nationaliste, c'est pour ça. Je pense que ça fait partie du rôle régalien, du rôle de base, de faire respecter l'ordre. T'sais, pour moi, il n'y a pas de différence structurelle entre l'État qui exerce le pouvoir, par exemple, d'avoir la police puis l'armée, puis l'État qui définit c'est quoi un peu le ciment culturel de l'État, c'est comme on le fait avec la loi 101, etc. Moi, je trouve que c'est 100% légitime parce que dans les deux cas, on est en mode fonder la base qui nous permet de vivre ensemble, qui nous permet d'être libre, qui nous permet d'avoir cette association-là plus spontanée par la suite. Fait que pour moi, je vois pas de différence entre le rôle culturel puis le rôle régalien. Néanmoins, est-ce que ça veut dire que dans toutes sortes de choses, puis notamment la prestation de services, ça devrait être la priorité. Je pense qu'au contraire, tu sais, juste le système de santé depuis 50 ans montre que ça ne marche pas. Tu sais, je veux dire, on dirait à chaque 4 ans, tu arrives avec un remède miracle qui apparemment va tout changer, mais qui, de fait, toujours personne n'a de service. Tu sais, puis notre plus grande hantise, en fait, c'est d'être malade parce qu'on le sait que il va falloir payer pour aller au privé. Tu sais, c'est comme un secret de polichinelle. Tu sais, même chose, on pourrait parler des écoles privées. Moi, je travaille beaucoup là-dessus avec Ardus. On va sortir un papier là-dessus sur pourquoi c'est important, justement, d'avoir des écoles autonomes qui soient appuyées par l'État et qui aient cette marge de manœuvre-là. Parce que, justement, typiquement, elles vont susciter l'engagement des parents et des enfants beaucoup plus, parce qu'ils peuvent avoir des projets éducatifs qui sont distincts. T'sais, quand on parle d'une école Montessori, une école internationale, tout ça, c'est là que les gens, ils recherchent une culture particulière. T'sais, nous, on en a fait des sondages de pourquoi est-ce que vous adoptez l'école privée plutôt que l'école publique. Puis la plupart du temps, ce qu'ils vont dire, c'est parce que c'est un environnement que je trouve qui est adapté à mon enfant, puis dans lequel moi aussi, je veux m'engager. Puis moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très dangereux. Puis je comprends l'idée d'avoir un cursus commun à l'école. Je suis d'accord. Puis d'ailleurs, l'État québécois le fait respecter même dans les écoles privées. Et ça ne veut pas dire, par contre, qu'il faut niveler absolument, puis qu'il faut absolument que tout le monde ait exactement la même expérience éducative, parce que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas les mêmes aspirations, tout le monde ne vise pas les mêmes choses. Puis moi, je trouve ça complètement sain qu'on soit capable d'avoir des projets éducatifs différents, par exemple. Fait que tu sais, en fait, on n'est pas, moi, je vois pas ça comme tout ou pas en tout, comme on dirait en bon québécois, mais c'est vraiment où est-ce qu'on place le curseur entre l'unité puis la pluralité, en fait, parce que c'est vraiment ça la question.
Oui, mais tu sais, ce qui est fascinant, tu sais, dans le fond, avec le peuple québécois, c'est qu'à cause qu'on était tellement menacés, on pourrait dire, de l'extérieur, puis on a tellement eu l'impression qu'on devait s'unir pour survivre, on a quand même une sorte de... On est comme assez monolithique, tu sais, comme peuple. C'est assez fascinant, ouais. Là, de voir un peu que tout le monde pense, pensent pareil, des fois même sans se le communiquer. Là, je me souviendrai encore quand tout le monde a voté pour Jack Layton, tout d'un coup, personne s'en est parlé. Puis là, moi, j'étais là, j'ai compté les votes au bureau. Puis là, le monde se mettait à sacrer dans la salle parce que c'était comme la surprise. Personne s'en attendait. Puis pourtant, tous les Québécois, il semblerait qu'ils s'étaient subconsciemment mis ensemble pour agir d'une direction. C'est assez fascinant de voir ça. Mais dans le fond, moi, ça m'amène à la question difficile, là, tu sais, c'est la question d'identité, puis je sais que c'est aussi la question post-libérale, là, qui, d'un certain côté, est encore remis sur la table, disons, avec tout ce qui se passe partout dans le monde, les questions d'immigration massive ou d'immigration illégale, toutes ces questions-là sont liées aussi à la question d'identité, mais c'est aussi c'est une question qui est difficile à cause de la longue, on pourrait dire, la longue ombre là, de la Deuxième Guerre mondiale, puis des excès d'identité dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est ça, je serais curieux de savoir comment tu navigues à travers ça, tu sais, la question du peuple québécois, puis sa, disons, son identité commune. On a essayé, tu sais, moi j'ai l'impression qu'on a essayé de réduire l'identité québécoise à la langue, puis clairement, c'est pas suffisant pour un peuple. Moi, je pense pas que c'est suffisant pour un peuple. Alors, je serais curieux de savoir comment tu vois la question des identités là, à travers tout ça?
Je pense qu'en ce moment, pour vrai, on est dans un moment où les questions se posent peut-être différemment qu'ils se sont déjà posées au Québec. T'sais. Moi, je me souviens, puis bon, j'ai tous les livres sur un peu le changement du débat identitaire. Puis on a vraiment eu, particulièrement après le référendum de 1995, la mauvaise conscience du Québec, elle ne vient pas de la Seconde Guerre mondiale. On n'était pas impliqué de près ou de loin, puis honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde que ça préoccupait à ce moment-là, au point qu'on a même refusé la conscription. T'sais, bon, certains diraient que c'était peut-être une erreur historique ou de vie particulier là-dessus. Mais c'est sûr que je pense que par rapport à l'Europe, les Québécois n'ont pas le même rapport à ça. Mais c'est sûr que, ben, typiquement, la phrase de Parizeau, l'argent puis les votes ethniques, ça vraiment où. Puis pendant 25 ans, là, jusqu'à l'élection du gouvernement de la CAQ, pratiquement, c'était vraiment tabou de poser la question de l'identité québécoise. T'sais. Puis mon ami Mathieu Bocoté a écrit un livre formidable là-dessus, son premier, qui s'appelait « La dénationalisation tranquille », sur comment, à la suite de ça, par surcroît de mauvaise conscience, on a voulu vraiment laminer l'identité québécoise pour qu'il n'en reste à peu près rien, sinon la langue, puis même la langue qui était conceptualisée comme outil de communication sur ce territoire-là, on ne sait pas trop pourquoi, mais pas comme émanation d'une réelle entité culturelle forgée par l'histoire qui est là depuis 400 ans puis qui est le résultat de la présence française en Amérique. Okay. Là, si tu me demandes c'est quoi le peuple québécois, c'est ça. Ouais. Puis c'est clair pour moi, c'est un autre des sujets que j'aborde dans l'anticivilisation. C'est comme c'est quoi la relation entre le centre et la marge, justement. Puis au Québec, je pense que c'est très clair que le centre, justement, c'est cette majorité historique francophone-là qui a une histoire particulière. Et le rôle du politique à ce moment-là, je pense, c'est d'être capable de créer des normes qui réconcilient un peu le centre et la marge, qui sont capables, sachant quelle est la particularité de ce territoire donné, de voir sur quoi est-ce qu'on peut s'entendre, sur quoi est-ce que même ceux qui n'appartiennent pas entièrement ou ne s'identifient pas entièrement aux référents centrales sont capables au moins de vivre ensemble puis de partager certains traits. Pour moi, la question identitaire aujourd'hui, ça se résume à ça. Puis sur la question du post-libéralisme, entre guillemets, c'est intéressant parce que moi, je crois depuis longtemps que les Québécois sont peut-être plus prompts à comprendre cette version-là de conservatisme que vraiment le vieux mode libéral-libertarien. T'sais. Parce que, ben d'abord, le libertarianisme est une idéologie marginale au Québec, l'a toujours été, et à mon sens, le sera toujours, parce que c'est vraiment, tu regardes, c'est pas neutre culturellement. T'sais. Le libertarianisme est un produit du monde anglo-protestant.
Ah oui.
Et surtout dans un peuple, justement, minoritaire en Amérique du Nord, qui a un côté franco-catholique, bien évident, et qui, en plus, a toujours cette espèce de lutte pour la survie-là. On sait très bien que la liberté linguistique en Amérique du Nord, ça veut dire l'assimilation en anglais. Fait qu'après, quelqu'un peut bien venir nous prêcher la liberté absolue et par principe, mais des gens, ils vont dire, OK, bon, l'argument procédural, je comprends, mais je vois la conséquence directe, fait que je peux pas adhérer à ça. T'sais. Puis à l'inverse, moi, je pense que le Québécois aujourd'hui comprend de manière aiguë ce besoin-là, justement, de soigner la base qui vient avant la liberté, de soigner le fondement d'unité qui permet le pluralisme, parce que justement, on est très soucieux de cette unité-là. Et d'ailleurs, ça me fait toujours rire, parce que quand tu regardes un peu dans le mouvement post-libéral, entre guillemets, beaucoup qui ont des racines québécoises. Je ne sais pas si tu savais, Patrick Deneen, par exemple, sa mère est québécoise. Gladden Tappen, qui était dans le Post-Liberal Order aussi, ses ancêtres sont venus de France vers Montréal, des papins. Puis tout le monde, on recevait Ross Douthat du New York Times chez Cardiff la semaine passée. Et je pense que son grand-père venait du Québec, genre un Irlandais du Québec. En tout cas, bref. Fait qu'il y a comme une espèce de filiation, là, je sais pas si c'est comme le... Il y a une espèce de mémoire culturelle qui nous rend prompt, là. Mais c'est sûr qu'après, on le verbalise pas comme ça. Puis d'une certaine manière, peut-être que le post-libéralisme, c'est une manière d'expliquer au monde anglo pourquoi ce conservatisme-là, qui a vraiment des racines dans l'imaginaire franco-catholique, la plupart des gens qui l'explicitent sont catholiques eux-mêmes. Puis bon, même si les Québécois, on se dit sécularisés, etc., on est certainement des post-catholiques plus que des pages blanches. Et donc, je pense que ça résonne un peu avec notre imaginaire. Puis la compréhension, en fait, que il y a un dialogue entre l'individu et la collectivité, puis que l'individu ne peut pas complètement s'émanciper de la collectivité, puis qu'au contraire, il ne sera jamais complètement lui-même s'il n'est pas conscient justement du peuple et de la civilisation dans laquelle il s'inscrit. Fait que, d'une certaine manière, je trouve pas ça particulièrement transgressif dans le contexte québécois. Peut-être que la manière de l'expliquer, on n'est pas habitué parce que c'est pas des penseurs qui sont très lus chez nous, mais de fait, je pense que ça résonne un peu spontanément avec l'imaginaire québécois.
Oui, puis il y a, moi, je pense honnêtement qu'il y a dans la subsidiarité une solution à la question de la, tu sais, du centre et de la marge. Puis c'est quelque chose que c'est vrai que dans la pensée protestante anglo-saxonne, tu sais, qui a tendance à aller vers une sorte de relation directe entre l'individu puis Dieu, là, tu sais, où on essaie d'éliminer. Mm-hmm. C'est pas quelque chose qui se fait tout de suite, mais tu sais, quand on voit le progrès vers les puritains, surtout le protestantisme américain, il y a comme une sorte de réduction, là, de la relation entre l'absolu puis toi, là, où toutes les autres structures sont vues comme étant en compétition, une sorte d'idolâtrie qu'on doit éliminer. Puis donc, ça crée le problème que si on a une pensée de subsidiarité, et si on peut comprendre qu'on a une nation, disons, québécoise, mais on a aussi des régions, que dans les régions, on sait que les gens sont différents. T'sais, on sait que quelqu'un de Montréal, quelqu'un de Québec, quelqu'un de Gaspé, c'est des gens qui ont comme des caractéristiques différentes, puis on est capable de médier la multiplicité avec une sorte de célébration de quelque chose qui nous unit malgré tout, tu sais. Que ça serait possible, j'ai l'impression, c'est sûr qu'il y a une limite, là, mais ça serait possible aussi de médier les exceptions si on pense à l'immigration, si on pense aux gens qui arrivent de l'extérieur, d'avoir comme une sorte de zone grise là où tu sais, les gens peuvent tranquillement entrer puis tranquillement se joindre là, tu sais, à devenir comme une sorte de partie de la subsidiarité. Mais tu sais, avec dans les dernières années, il semble en tout cas qu'on a une immigration tellement grande qu'on n'a pas la capacité de laisser ça se faire naturellement. Tu sais, où c'est comme si ça force la ghettoisation. Là, tu sais, les gens, à cause qu'ils sont tellement, il y a tellement une masse de gens qui arrivent d'un coup qui sentent pas du tout le besoin de se connecter à la nation qui est déjà présente. Là.
Ben, c'est clair. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que je veux pas la première réalité en matière d'immigration, c'est ce sera toujours le nombre. Tu sais. Ouais. Quand on. C'est mathématique, en fait. Quand tu arrives dans un milieu, puis c'est même pas obligé d'être une nation, tu es juste dans une salle avec 10 personnes, mais s'il y en a 9 qui ont la même langue ou la même façon de faire, puis que toi, tu es un, bien, c'est sûr que tu vas être plus porté, alors que si vous êtes 5-5, bien, probablement que vous allez juste vous mettre chacun de votre bord, puis vous allez faire vos affaires, tu sais. C'est tellement mathématique puis tellement simple que pour moi, il y a rien de radical à le dire, parce que c'est une évidence qui crève les yeux, tu sais. Après, sur la question, oui, de la subsidiarité, je pense que c'est intéressant parce que souvent, quand on parle, par exemple, d'interdire certains comportements dans la sphère privée, là, name it, il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre la sphère privée et la sphère publique. Plutôt de l'interdire dans la sphère publique, pardon. On ne fait pas la différence entre la sphère privée et la sphère publique. Ouais. Puis quand on conçoit justement que la vie en société, c'est plus que l'état de l'individu, qu'il y a toutes sortes de sphères, mais c'est normal que, par exemple, dans la sphère publique, je ne me comporte pas de la même manière que dans la sphère privée. Puis Dieu merci que c'est comme ça, parce qu'on fait toutes sortes de choses chez nous qu'on ne voudrait pas faire dans la rue. Et puis, malheureusement, je pense qu'une certaine pensée, justement, qui a oublié ces nuances-là, pense que quand on dit que certaines choses, par exemple, ne devraient pas avoir lieu dans la sphère publique, c'est comme si chez toi, ce n'était pas légitime non plus. Ce n'est pas un jugement de valeur en général. Puis le rôle de l'État aujourd'hui, à mon sens, ce n'est pas de donner un sens à la vie des gens. Là. Ça ne va jamais arriver. Puis en fait, ça serait littéralement la définition du totalitarisme si le gouvernement veut donner un sens à ta vie. Mais c'est plutôt le rôle de dire, OK, dans la sphère publique, quand on est tous appelés à se rencontrer avec souvent des visions du monde différentes, des pratiques qui sont parfois antisociales, c'est quoi le minimum sur lequel on doit s'entendre et que si ce minimum-là est transgressé, par exemple, et qui cause une forme de chaos, cancer, ou au moins parfois même de rapports de force qui sont au désavantage des plus faibles, ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, à partir de quel moment il faut intervenir pour que ce minimum-là soit maintenu. Tu sais, c'est pas l'idée de jusqu'où on peut pousser la contrainte. Moi, ça m'excite pas d'interdire des choses aux gens. C'est juste qu'aujourd'hui, quand tu vois que certaines choses qui étaient prises pour acquis ne le sont plus, ben, tu te dis, OK, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais? Je pense que tout le monde le voit, justement. Puis on pourrait parler de la polarisation du discours aussi. Tu sais? Puis juste la manière dont les gens agissent dans la sphère publique. Puis, tu sais, par exemple, regardons la rhétorique de Donald Trump. Tu sais, la réaction au Québec face à Trump est souvent très excessive. Néanmoins, est-ce que c'est vertueux qu'un dirigeant politique se comporte comme ça, avec une forme de vulgarité qui n'est pas à la hauteur de la fonction? Moi, je ne peux pas dire que j'admire ça beaucoup. T'sais.
Non, c'est ça. C'est clair qu'il est comme un... Comment je pourrais dire... Tu sais, Trump, s'il y a un effet quelconque, c'est plus comme un effet que sur un, comment je peux dire, une espèce d'effet sur un cardiaque, là. C'est comme ressuscitation. Tu sais, c'est vraiment le genre de truc qui tuerait quelqu'un habituellement, mais qui essaie de ranimer le monde dans un moment de crise, là. J'avoue que c'est vraiment un problème. Parce qu'on parle beaucoup de contraintes, tu sais, on parle de qu'est-ce qu'on doit interdire, qu'est-ce qu'on doit laisser aller. Mais moi, en général, tu sais, mon modèle de danser, c'est un modèle religieux, dans le fond, c'est-à-dire un modèle de célébration. Tu sais, j'ai l'impression que ce qui nous réunit ensemble, c'est les choses qu'on célèbre en commun, on pourrait dire. Les choses qu'on voit comme étant importantes, puis on a tendance à mettre au-dessus de nous comme des exemples ou comme quelque chose qui nous tient ensemble, comme une origine commune, toutes ces choses-là. Puis est-ce que, c'est-à-dire, c'est peut-être ça la question, c'est est-ce que c'est possible, tu sais, disons, dans le Québec en ce moment, de faire ça? Même, tu sais, je pense à mes enfants, là. Tu sais, mes enfants, ils apprennent l'histoire du Québec à chaque année, toutes les années de leur vie à l'école, puis ils apprennent absolument rien sur l'histoire du Québec. Parce qu'il n'y a aucune célébration. C'est-à-dire, il n'y a aucune idée qu'on est en train de se rappeler de gestes importants. Non. Premièrement, la célébration a la tendance à aller vers la société autochtone. Puis, notre société, on fait juste dire les faits, les choses qui sont arrivées, on raconte les événements de façon froide. Mais ça fait pas des citoyens, tu sais, parce que qu'est-ce qu'on a en commun, tu sais, si tu dis à l'enfant que la partie la plus importante de l'histoire du Québec, c'est ce qui fait pas partie de l'identité québécoise comme telle, c'est-à-dire une autre nation qui était là avant, tu sais, qui a été déplacée, on peut
plaindre. Qui encore à ce jour se définit pas comme québécoise à juste titre parce que c'est une autre
non,
nation.
Non, c'est ça, tu sais. Fait que il y a comme une sorte de, ouais. Tu sais, c'est ça, j'ai de la difficulté à voir comment qu'on peut arriver, disons, à... Tu sais, même, disons, les saints, là, c'est super... Tu sais, disons, les saints canadiens-français, là, c'est une partie super importante de notre histoire. Il n'y a personne les connaît. Tu sais, disons, tout l'aspect de la foi de Champlain, toutes ces choses-là, on parle, il n'y a rien de ça, mais c'est tout l'aspect célébratoire, on pourrait dire. Fait que là, quand maintenant on est au Québec, puis là on voit, disons, même on est à Montréal, on voit l'oratoire ou on voit les monuments, on ne sait même pas quoi dire, on ne sait pas quoi penser. Ouais. Il y a comme une sorte de malaise où on n'arrive pas à célébrer les choses qu'on a fait, les choses qui sont bonnes dans notre histoire. Là. Je ne sais pas comment faire pour arriver à. Est-ce que c'est possible? Je sais pas, tu sais, disons même, est-ce que c'est possible pour les Québécois de retrouver une sorte de fierté naturelle? Tu sais, je dis pas une fierté chauviniste, une fierté excessive, mais juste une sorte de fierté naturelle de leur histoire, de leurs ancêtres, de ce qu'ils ont réussi à accomplir.
Ben, je pense que les Québécois, ils ont quand même une joie de vivre. Dans le sens qu'au niveau, au niveau de la célébration, c'est sûr, c'est pas des célébrations qui sont ancrées dans l'histoire. Fait que je comprends, c'est insatisfaisant. Mais tu sais, par exemple, il n'y a probablement pas un peuple sur Terre qui aime plus l'humour. Des fois, c'est un peu plus banal. Mais puis même chose. Tu sais, moi, c'est quelque chose que j'ai pas réalisé avant d'aller ailleurs. Mais il n'y a pas beaucoup de peuples sur Terre que leur fête nationale, c'est des spectacles de musique. C'est ça, on peut dire que ça vient de la mythologie de la Révolution tranquille, mais quand ça dit quelque chose sur nous, dans le sens que les Québécois sont quand même reconnus pour ce côté très chaleureux, très bienveillant. Fait que je pense qu'il ne faut pas trop se battre la coupe non plus parce qu'on a ce bon côté-là.
Ouais. Après, mais l'humour, c'est pas un bon exemple parce que l'humour, c'est le contraire de la célébration. Il y a vraiment une importance, c'est super important d'avoir des fous du roi, c'est vraiment important d'avoir des gens qui pointent l'ironie, qui pointent la contradiction, qui mène à la dérision de l'ordre. Tu sais, c'est super important, mais quand ton outil de culture centrale, c'est la dérision puis le clown. T'sais, quand que la culture québécoise, c'est le cirque, puis on le sait que c'est ça, là, la plus grande réussite de la culture québécoise, c'est le cirque. J'ai rien contre le cirque. C'est vraiment important, le cirque. Mais le cirque, c'est pas la célébration. C'est l'inversion, c'est le clown, c'est le carnaval, c'est toute cette esthétique-là.
Le plus du roi peut pas être le roi non plus.
Exactement.
On s'entend, évidemment.
C'est ça. T'sais.
Évidemment.
Fait que c'est moi, je vois ça, en fait. T'sais, comme j'ai dit, je peux être fier d'une certaine façon de nos accomplissements culturels, mais il y a quelque chose en moi qui est suspect du fait que c'est devenu, disons, depuis l'échec du référendum, là, c'est devenu notre espèce d'exportation. Ce qui est devenu notre culture centrale, là, c'est l'humour, puis le cirque, puis le carnaval. Là.
Bien sûr. Après, moi, je pense que la théorie du retour de balancier, elle finit toujours par être vraie. Dans le sens que ben, le regard justement qu'on a par rapport à nos origines, par rapport à tout ça, je pense que justement, quand on a vu justement, sans dire la caricature du Québec boomer, mais tu sais, cette idée-là justement que... Non, mais tu vois ce que je veux dire, tu sais. Cette idée-là que la réalisation pleine du Québec, c'est la négation de tout ce qui s'est passé avant les années 60, la négation évidemment des racines chrétiennes, mais aussi de toute cette histoire justement missionnaire en Amérique du Nord, puis que tout ce projet-là, qui est un projet colonial, mais dans le bon sens du terme, tu sais, de dire que oui, il y a des colons qui sont venus ici, puis comme disait Jean Lapointe dans la série du Plessis, qui ont défriché à de leur front en mangeant du navet des hivers de temps. Ben moi, je renie pas ça non plus. Puis au contraire, je pense qu'on est peut-être appelé à une redécouverte de ça. T'sais. Puis quand on voit justement les insuffisances du Québec actuel qui nie ça, mais pas autant qu'il l'a déjà nié, tu vois, justement, l'idée. Puis bon, tu verras, c'est peut-être bureaucratique, c'est peut-être étatique, mais qu'on ait décidé pour la première fois d'avoir un musée national de l'histoire du Québec. Savoir qu'est-ce qui sera là-dedans. Mais l'idée de raconter justement l'histoire de la nation francophone du Québec, de savoir déjà que c'était pas arrivé avant, c'est un peu troublant. Puis j'espère que ça va donner quelque chose de bien. Mais cette idée-là qu'il y a peut-être une redécouverte à faire, puis je pense qu'on est quand même à une époque où justement, surtout chez les jeunes, le consensus, c'est quand même une forme de désenchantement par rapport à l'espèce de vide libéral. Fait qu'à ce moment-là, c'est juste naturel de voir à quoi est-ce qu'on peut se raccrocher, puis au final, d'où est-ce qu'on vient, parce qu'il n'y a rien de plus normal, puis il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien d'autoritaire, etc. Là, trouve les étiquettes à vouloir savoir pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose comme le Québec en Amérique du Nord? Pourquoi est-ce qu'il y a cet îlot francophone-là autour du Saint-Laurent? Comment est-ce que c'est advenu? Pourquoi en 400 ans, on est encore là? C'est que je trouve qu'au contraire, si on se coupe de ça, on manque vraiment quelque chose. T'sais? Puis de voir justement qu'il y a des sacrifices vraiment importants qui se sont faits. Puis souvent, d'ailleurs, ça, on dérive un peu, mais tu vois, c'est intéressant, le fait qu'on n'a pas toujours vécu dans une société de consommation. T'sais. Je veux dire, moi, des fois, je réécoute les belles histoires des pays d'en haut avec mon père qui aime bien ça aussi. Puis tu vois, juste comme le Saint-Adèle de 1870, évidemment, je dis pas que je veux retourner à ça, mais je dis que le rapport au monde est complètement différent parce que quand tu n'es pas dans une logique d'accumulation monétaire, dans le sens que même Séraphin, il vit pauvrement, tout le monde est pauvre. Il n'y a personne qui dit, moi, mon but, c'est de m'acheter un jet pour aller à Dubaï. Je veux dire, tout ça n'existe pas. Puis c'est comme si on est dans un... Non, mais c'est vrai, c'est un monde qui a comme un système de valeurs qui est différent, puis où, par exemple, l'accumulation matérielle, c'est pas la fin de l'être humain. Parce qu'à ce moment-là, il n'est pas possible, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose avec quand même, quand tout ce que tu as, c'est des calèches en plein milieu de la neige. Mais c'est comme, il y a quelque chose d'intéressant là, puis sans dire, est-ce qu'on va devenir post-matérialiste, sans doute pas. Mais quand on a poussé le bouchon au maximum, on se rend compte, en fait, que même si tu es l'homme le plus riche du monde, mais qu'il n'y a pas de sens derrière ça, t'es un peu tout nu.
Ah, si t'es seul, si t'es seul puis t'as pas de famille puis t'as pas de...
Ah, c'est ça.
Mais ça m'amène aussi, disons, tu sais, je suis vraiment difficile avec toi, je te pose toutes les questions difficiles, là. Mais la selon moi, il y a aussi une des grosses questions, c'est le déclin démographique, là. C'est-à-dire, tu sais, une des réalités du Québec, puis tu sais, je le dis, là, tu sais, je dis même dans ma... J'ai eu une discussion vraiment intéressante avec Mathieu Bocoté, on s'est rencontrés, c'était vraiment intéressant, puis lui, tu sais, il dit, il faut se faire une nation, tu sais, il faut vraiment, tu sais, amener l'indépendance du Québec et tout, mais qu'est-ce que ça veut dire dans une situation où les Canadiens français, ils n'ont pas d'enfants? C'est quoi l'avenir? C'est quel avenir qu'on regarde? Puis, moi, j'ai l'impression que c'est là aussi que la nation n'est pas suffisante. T'sais, on le voit. Là. Il y a comme quelque chose, il faut qu'on soit attaché à quelque chose de transcendant qui nous donne une vision au-delà de nous, là, au-delà de nos désirs. Qu'on a aussi l'idée que le sacrifice de soi, en fait, ça l'amène à un épanouissement là, quand on se donne à nos enfants puis qu'on se donne à la prochaine génération. Fait que je ne sais pas si tu as pensé un peu à cette question-là là, du déclin démographique. Puis c'est vraiment, les gens ont de la difficulté à en parler, mais c'est vraiment un truc réel. Là.
Ah ben pour moi c'est pas un tabou du tout là, je veux dire, puis au contraire chez Cardus on en fait des études sur les politiques familiales, sur la situation de la démographie. D'ailleurs, c'est une des choses que dans notre brève présence au Québec, ça fait juste depuis février que mon collègue Jean-Christophe est notre directeur pour le Québec, que moi je suis là juste depuis le mois d'août, fait que c'est tout très récent, mais c'est une des choses qui attire le plus l'attention au Québec parce que les gens ils se rendent bien compte qu'il y a un problème, tu sais, je veux dire, on à juste titre, on doit critiquer les seuils d'immigration qui sont bien exagérés au Canada aujourd'hui. Mais après, la vérité, c'est quand même que si... encore une fois, je vais caricaturer, mais si les Québécois avaient encore 15 enfants par famille, on n'en parlerait pas, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est là qu'on voit, en fait, qu'il n'y a pas de muraille de Chine entre la nation et la famille. Que justement, le modèle subsidiaire des différentes sphères, c'est que tout ça est interconnecté. Ils ont chacun leur sphère propre. T'sais, dans le sens que le gouvernement ne doit pas dire à la famille quoi faire, mais et souvent, et vice-versa même. Mais à un moment donné, la société publique, civile, etc., ne peut pas vivre s'il n'y a pas de gens pour l'animer. T'sais. Fait que ça, c'est tellement essentiel. Puis d'une certaine manière, je peux dire même un objectif, à mon sens, que les nationalistes conservateurs devraient viser à court moyen terme, c'est de casser ce tabou-là autour de la famille au Québec. Parce que moi, ça me rend fou que quand on ose parler de ça, il y en a qui montent aux balustrades en disant « Mon Dieu, c'est le retour des curés, patatata. » C'est comme les vieux clichés les plus éculés sans bon sens, alors qu'on pointe juste à quelque chose qui est 100% vrai. T'sais. Puis je me souviens, en 2018, quand M. Legault a été élu pour la première fois, il y avait une section natalité dans le programme de la CAQ. Et puis, il s'était fait caricaturer sans bon sens. J'ai encore la caricature sur mon sel parce qu'elle me fait tellement rire. Mais on voit M. Legault en noir et blanc, avec une soutane en train de percer des capotes en disant « il veut plus d'enfants ». Mais tu sais, ça, c'est comme l'espèce de caricature qu'on se fait toujours remettre dans la face quand on parle de ça. Mais l'affaire, c'est que la famille, ça ne devrait pas être un tabou. J'ose croire qu'on s'inscrit tous dans une famille, qu'on l'aime, en tout cas, autant que faire se peut. Puis si on n'a plus cet ancrage-là qui est quand même fondateur, bien, on s'en va vers une société qui va être désaxée. Parce que la famille, c'est tellement au-delà du nombre de personnes que la famille produit. Tu sais, c'est la première école de la vertu. C'est là qu'on apprend à agir en société. C'est là qu'on découvre justement qu'on n'est pas des individus tous indépendants les uns des autres qui s'adonnent à collaborer à l'occasion pour notre intérêt individuel. Tu sais, moi, je le sais que mes parents ont donné énormément pour faire de moi qui je suis. Je sais que je leur en dois beaucoup puis que le jour où ils vont avoir vraiment besoin de moi, il va falloir que je sois là. Même chose vaut pour mes grands-parents, même chose vaut pour ma sœur. C'est comme ça que ça marche. Puis je pense que, d'une certaine manière, bon, ça en dit long sur la société qui est un peu l'idée de ces couches intermédiaires aujourd'hui, mais la famille qui est un peu notre dernière institution qui est illibéral parce que justement pas individualiste, nous permet de se rappeler que ça n'a pas toujours été comme ça puis que ça ne doit pas être comme ça quand on interagit publiquement, d'être juste des individus qui se côtoient un peu de loin, qui n'ont pas de lien significatif, parce qu'au contraire, justement, on est appartenir à quelque chose. Puis pour revenir à la question de l'identité, une identité, c'est une communauté à laquelle tu appartiens, qui a des droits sur toi et vers laquelle tu as des droits. Parce que si c'est juste une épinglette qu'on se met sur le blason pour dire « Ah, voyez, moi, je suis spécial », bien, c'est pas ça une identité, là. Je veux dire, c'est un espèce de fétichisme qui sert à rien puis qui fait juste monter les gens les uns contre les autres. Mais si ça n'a pas de conséquences significatives sur la manière dont tu vis ta vie, si ça limite pas ta liberté individuelle, bien, de fait, c'est pas une vraie identité, à mon sens.
Oui, c'est assez intéressant, mais même juste au niveau là, vraiment simple, c'est-à-dire un projet de société qui mène à un déclin radical démographique est clairement malade. C'est-à-dire, comment tu peux concevoir une société qui dans sa structure même, mène à une sorte de chute démographique qui, tu sais, que si... tu sais, que c'est même possible qu'on peut pas rebrousser, là, tu sais, c'est-à-dire que si les gens ont un enfant, tu sais, après, c'est vraiment une cascade, là, c'est-à-dire à un moment donné, c'est impossible de retourner. Tu mènes, disons, ta civilisation, ton peuple, tu le mènes vers l'extinction, là. Puis ça, c'est un truc dont personne veut parler, mais tu sais, donc, notre mode de vie, tu sais, c'est pour qui? C'est juste pour nous, c'est pour notre plaisir propre, puis après ça, c'est la fin du monde. Puis là, on va amener des gens de l'extérieur pour qu'ils se conforment à cette vision-là, disons, une sorte de vision libérale de la réalité.
Parce qu'ils adoptent après le même taux de natalité que les Occidentaux, hein. C'est comme un mode de vie.
Juste amener des gens de l'extérieur qui brassent pour amener à des déclins démographiques, c'est clair que c'est un projet de civilisation qui ne peut pas fonctionner. Il y a quelque chose, une maladie vraiment profonde dans une société qui mène constamment à sa propre extinction, là.
On est d'accord. Puis, tu sais, d'une certaine manière, ça, c'est un thème sur lequel je veux travailler pour un prochain livre, mais la question des métropoles, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Okay. C'est comme le mode de vie métropolitain aujourd'hui, parce que, d'une certaine manière, ce qui tue la fécondité, c'est ça, là. Je veux dire, j'avais déjà vu des chiffres, et j'aimerais vraiment ça les retrouver, sur la natalité au Québec, où, je pense, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on était proche de 2 où on le dépassait, mm-hmm. alors qu'à Montréal, on tutoyait le 1 où on était un petit peu en dessous. Puis c'est vrai que le mode de fonctionnement des métropoles aujourd'hui, puis on peut dire ça des pays occidentaux parce que c'est eux qui attirent la main-d'œuvre étrangère notamment, mais la métropole attire des gens qui ensuite, ben, pas s'éteignent, mais du moins ont moins d'enfants, donc le nombre diminue. Fait que là, il faut aller chercher dans les banlieues, il faut aller chercher dans les régions. L'exode rural puis le déclin des régions, c'est ça. Mm-hmm. Puis après, quand il n'y en a plus assez, ben, il faut aller chercher dans d'autres pays. Mais comme tu dis, c'est sûr que c'est toujours décroissant. Puis après, la vraie question derrière ça, c'est que au final, tant qu'à moi, bâtir une famille, c'est aussi un vote de confiance dans l'avenir. Fait que tu sais, si on est à un point civilisationnel où on n'a plus confiance en l'avenir assez pour dire que la vie vaut la peine d'être perpétuée, puis d'ailleurs, c'est quelque chose qui était très transparent chez certains militants écolos qui disent oui. « Parce que je trouve que le monde s'en va vers son extinction, je ne veux pas mettre d'enfants au monde. » On peut trouver ça lunaire, c'est un peu mon cas, mais ils sont honnêtes. On peut pas dire qu'ils sont pas honnêtes.
Non, c'est clairement ça
qu'ils pensent. Puis d'une certaine manière, est-ce que effectivement l'espèce de libéralisme progressiste contemporain, parce qu'il voit pas de sens dans le monde aujourd'hui, se dit que ben au fait ça sert un peu à rien de mettre quelqu'un d'autre au monde là-dedans. T'sais, si effectivement le but de l'existence c'est juste l'accumulation individualiste matériel, ben pourquoi tu partagerais ça avec quelqu'un d'autre si ça fait que tu peux pas partir justement en voyage à Dubaï 3 fois par année? Parce qu'au final, c'est ça, tu sais, je veux dire, on a fait un sondage là-dessus chez Cardus, tu sais, on regardait le nombre d'enfants que les gens voulaient avoir, puis ensuite le nombre d'enfants qu'ils ont eu, puis on leur demandait, parce qu'ils en voulaient toujours plus qu'ils ont fini par en avoir. T'sais. On demandait pourquoi vous en avez peu autant. Puis la réponse numéro 1, avant les considérations matérielles, parce que évidemment, la crise du logement, le fait que tu ne peux pas avoir un emploi stable facilement quand tu es jeune, tout ça, ça joue. C'est parce qu'on veut une stabilité avant de faire ça, c'est normal. Mais le numéro 1, c'était pour me découvrir comme personne. Ça, écoute, je sais que ça va résonner avec quelqu'un comme toi qui s'intéresse à ces questions-là, mais ça veut dire quoi de découvrir comme personne? Puis d'aucuns, en fait, les gens que je connais qui sont parents, moi, j'ai pas encore cette chance, mais bon, on a dit au début, je suis encore assez jeune, faut que ça vienne.
T'as encore du temps.
Mais, tu sais, ça te fait tellement grandir. Puis justement, quand on disait que les institutions qui sont significatives, c'est celles qui nous donnent la responsabilité, bien, est-ce qu'on entre vraiment dans l'âge adulte? Puis là-dessus, j'assume mon autocritique, est-ce qu'on rentre vraiment dans l'âge adulte quand on n'a pas beaucoup de responsabilité envers les autres? Puis souvent, c'est ce qui mène, je crois, à la crainte un peu de devenir parent, c'est la peur de l'engagement. Puis quand on regarde, c'est quoi qui est constant dans la génération dont on parle, la génération qui est désocialisée, un peu déculturée, je dirais même, c'est cette peur de l'engagement-là. Pourquoi? Parce que la doxa dominante de notre époque, c'est une vision absolutiste de l'autonomie qui dit « tu dois compter seulement sur toi-même. Si tu dépends de quelqu'un d'autre, attention, tu vas être déçu. Assume le pire des autres. » Et chaque fois que tu vas mettre une partie de ton bien, de ton destin, de ce qui t'importe pour toi entre les mains de quelqu'un d'autre, fais attention parce que tu vas devenir vulnérable. Puis encore une fois, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut juger les institutions par leurs abus? Je pense que non. On peut pas juger le lien social par la possibilité d'être trahi. Autrement, on va toujours être malheureux, tu sais. Fait que je pense qu'il faut vraiment inverser notre échelle de priorité là-dessus parce que tant qu'on va continuer de se dire que, justement, quand on fait un vote de confiance envers l'avenir en ayant des enfants, en fondant une famille, quand on fait un vote de confiance envers quelqu'un d'autre en disant que, ben, par exemple, on va se marier puis idéalement rester ensemble pour toujours, c'est sûr qu'il y a une part de soi-même, entre guillemets, qu'on abandonne. Puis notre moi authentique, si une telle chose existe, est plus ce qu'il était. Mais il faut, au contraire, apprendre que, justement, la vraie liberté, la vraie autonomie, bien, on la vit quand on est en relation avec les autres, quand on s'inscrit dans des structures de sens, parce que sinon, bien, en fait, c'est la solitude, puis il n'y a personne qui est heureux. T'sais, quand on voit les chiffres de santé mentale qui augmentent particulièrement chez les jeunes, de ne pas faire le lien avec la situation sociale appauvrie aujourd'hui, il faut vraiment se boucher les deux yeux, là, tu sais.
En tout cas, Étienne, je pense que c'est vraiment avec ton dernier encouragement, c'est vraiment un bon endroit pour terminer notre conversation. Merci de me parler. Puis, je pense que les gens. Où est-ce que les gens peuvent trouver aussi le travail que vous faites à Cardius? Parce que c'est assez fascinant, c'est nouveau, c'est quelque chose qui est un peu unique là, au Québec. Là. Alors, où est-ce que les gens peuvent voir ce que vous faites?
Toutes nos recherches sont disponibles sur le site cardius.ca, C-A-R-D-U-S. Puis ben, mon livre, on peut l'acheter dans toutes les bonnes librairies, là. Anti-civilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur. Voilà. Il est juste en arrière de moi ici.
Ah, super. Hey, merci Alexandre pour ton temps, puis bon courage.
Merci Jonathan, salut.
Salut.